Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et revoilà les négociations sur la réforme des retraites. Matignon invite les partenaires sociaux, chacun leur tour aujourd'hui. Mais c'est bien la CFDT qui est visée, qui est choyée. Le gouvernement pourrait donner un an de négociations supplémentaires pour revenir sur la question de l'âge pivot. Hier en France, des centaines de milliers de manifestants étaient dans les rues.
Et dans ce journal, vous comprendrez aussi pourquoi le simulateur sur le futur système de retraite prend du retard. Seul un comparateur devrait être lancé dans les prochains jours.
Les sénateurs ne veulent pas que les géants du numérique régulent eux-mêmes les contenus haineux sur Internet. Ils ont retoqué hier soir la proposition de loi de la majorité.
À suivre également la procédure de destitution contre Donald Trump. La Chambre des représentants doit voter aujourd'hui.
Et puis la cessation de paiement de Rio de Janeiro. La ville brésilienne n'a plus les moyens de payer les salaires de ses salariés. À 3 jours des vacances de Noël, le gouvernement veut éviter de s'enliser dans sa réforme des retraites. C'est donc à Matignon, auprès du Premier ministre Édouard Philippe, que seront reçus les partenaires sociaux cet après-midi, un à un, à partir de 14h, pour des conclusions rendues demain. L'intersyndicale, menée notamment par la CGT et Force ouvrière, prévient encore il n'y aura pas de trêve pour Noël. Le mouvement se poursuit avec des actions locales à partir de demain. Le discours, en revanche, n'est pas le même à la CFDT, syndicat réformiste, que le gouvernement n'en finit plus de flatter. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est pour un système de retraite universel par points, mais contre un âge pivot. Il semble avoir été entendu.
Oui, Matignon doit lâcher du lest sur ce sujet pour récupérer le soutien franc et entier du premier syndicat français. Et hier soir, la secrétaire d'État en charge des affaires européennes a levé le voile sur le plateau de LCI. Amélie de Montchalin l'affirme, une concession importante sera faite sur cette question.
Comment on va à l'équilibre en 2027? On propose un an de négociation pour que sur ce deuxième sujet, on prenne le temps et que si les partenaires sociaux ont des meilleures idées que celles qu'on a et qui, je le sais, suscitent beaucoup de questions, eh bien nous soyons à l'écoute et qu'on puisse présenter quelque chose de différent au début 2021.
Un an pour faire des propositions, c'est au mot presse qu'avait réclamé hier Laurent Berger dans les colonnes de La Croix. Sur ce sujet donc, le gouvernement et la CFDT pourraient trouver un terrain d'entente.
Et il n'y a pas que l'âge pivot que le gouvernement pourrait revoir. En parallèle, Anne-Laure, d'autres dossiers seraient en mesure de débloquer le conflit. Ils concernent notamment les cheminots.
Oui, il faut bien sûr faire baisser la pression dans ce secteur. 14e jour de grève à la RATP et à la SNCF. La CFDT cheminot est prête à faire une trêve pour Noël. Elle qui représente 20% des conducteurs. Mais elle réclame toujours la clause du grand-père, c'est-à-dire l'application de la réforme aux seuls nouveaux entrants. À cette solution, le gouvernement pourrait préférer une autre piste, moins voyante, qui sonnerait moins comme un recul. Il s'agirait de mieux valoriser les salaires quand on calculera les droits acquis de ces cheminots. D'ailleurs, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, vient de le dire sur France Inter, il faut garantir aux cheminots un haut niveau de pension. C'est la piste qui est creusée en ce moment. Ça pourrait aussi satisfaire l'UNSA ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF et premier à la RATP. Alors cela sera-t-il suffisant face à une CGT et Force ouvrière qui réclament eux l'abandon pur et simple de la réforme? C'est tout l'enjeu. Hier, devant les députés de la majorité, Édouard Philippe se disait raisonnablement optimiste.
Merci Anne-Laure. Anne-Laure Jumet, chef du service économie de France Culture. Je précise que le trafic ferroviaire reste effectivement perturbé ce matin, que ce soit à la SNCF et en Ile-de-France à la RATP. Pour le week-end qui vient, la SNCF estime quand même pouvoir faire voyager des personnes ayant déjà réservé un billet de TGV. Des grèves et des manifestations. Selon le ministère de l'Intérieur, 615 000 personnes étaient dans les rues un peu partout en France hier. Elles étaient 1 800 000 selon la CGT. Le cabinet Occurrence a lui compté pour Radio France 72 500 manifestants à Paris. Voilà donc pour le fond et la forme de cette future réforme des retraites qui sera pilotée par un homme mis en lumière hier soir par l'Élysée. Il s'appelle Laurent Pietraszewski. Il remplace Jean-Paul Delevoye. Ce député La République En Marche du Nord a découvert le monde politique lors de la campagne d'Emmanuel Macron en 2016. Jusque-là rapporteur de la loi Travail, puis porte-parole du parti au sein de l'Assemblée nationale. Il connaît, dit-on, très bien le dossier des retraites. Laurent Pietraszewski sera nommé secrétaire d'État en charge des retraites ce matin à 9h lors de la passation de pouvoir avec Jean-Paul Delevoye. Ce dernier, je vous le rappelle, avait démissionné avant-hier après la révélation de mandats non déclarés. Alors, l'équipe de ce nouveau secrétariat d'État devra, avec Matignon, lancer dans les jours qui viennent un simulateur pour ce futur système de retraite. C'était une demande d'Emmanuel Macron, ainsi que de certains élus et syndicats. Demande exigeante qui ne sera pas mise en ligne avant plusieurs mois. Mais un module d'information est tout de même en préparation, une sorte de comparateur qui, lui aussi, prend déjà du retard, Anne Fauquemberg.
Était-ce un acte manqué pour la Startup Nation, cher à Emmanuel Macron, ou un oubli volontaire pour poursuivre la réforme dans le flou? Toujours est-il qu'en une semaine, sans compter la démission de Jean-Paul Delevoye, les équipes du Haut Commissariat aux Retraites n'ont pas pu faire de miracle malgré la méthode employée. Une méthode dite agile, brique par brique, bien connue du monde des développeurs. La première phase, explique Matignon, permettra aux citoyens de vérifier s'ils sont concernés ou non par la réforme, de voir des exemples de montants de retraite pour ceux qui feront leur carrière dans le système universel, et pour les autres, ceux qui seront concernés par les deux systèmes, de voir la répartition entre la retraite calculée avec les règles actuelles et celle dans le nouveau modèle. Le Haut Commissariat aux Retraites met aussi en ligne des PDF avec plusieurs cas types, pour les fonctionnaires, les artisans, les professions libérales ou encore les agriculteurs, le tout en lien avec le GIP Union Retraite, un groupement d'intérêt public qui réunit les 42 régimes. Un simulateur dont on ne verra pas la version finale avant de nombreux mois, tant il manque encore de détails à paramétrer, confie un conseiller ministériel. Comment déterminer par exemple la valeur du point sans savoir comment les salaires vont évoluer.
Un vrai casse-tête donc, et le comparateur et dont le simulateur pourrait lui être mise en ligne au plus tôt demain. Le Parlement s'apprête à adopter définitivement aujourd'hui le bracelet anti-rapprochement pour éloigner les conjoints et ex-conjoints violents. Plus de 210 000 femmes sont chaque année victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint. Il y aura eu d'ailleurs cette année au moins 122 féminicides en France, un chiffre déjà en hausse par rapport à 2018. Au Sénat, les parlementaires se penchent eux sur la haine en ligne et ils ont ces derniers jours soigneusement détricoté le texte défendu par la majorité La République En Marche et notamment par la députée Laetitia Avia. La proposition de loi a été amputée de sa proposition phare, à savoir l'obligation pour les plateformes et les moteurs de recherche de retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites. Le Sénat, à majorité de droite, la rejette, dénonçant un texte liberticide, Maxime Tellier.
Malgré un constat partagé sur la nécessité de lutter contre la haine en ligne, les sénateurs, les Républicains ont choisi de retoquer lourdement le texte d'origine voté par les députés. On pouvait s'y attendre. Le chef des sénateurs de droite, Bruno Retailleau, avait prévenu le 4 décembre lors d'une interview à l'Association des journalistes parlementaires.
On va lui faire un sort à la loi Avia. Tous les jours, on nous dit qu'on doit résister par rapport aux GAFAM, qu'il faudrait qu'on trouve des instruments de régulation. Et là, on nous propose de leur confier la régulation de la liberté d'expression française par le biais des algorithmes. Complètement dingue.
Les sénateurs de droite qui adoptent ici une position inverse de leurs collègues députés à l'Assemblée, mais ils s'appuient sur de nombreuses voix critiques au sein de la société. Des associations comme la Quadrature du Net évoquent un texte liberticide. Le Conseil national du numérique s'est inquiété de la délégation à des entreprises privées de notre liberté d'expression. Les sénateurs n'ont donc qu'à reprendre ces arguments, ajoutant aussi au passage un avis de la Commission européenne en novembre qui estime le texte contraire au droit européen. Cédric O, secrétaire d'État au numérique, a pourtant défendu le texte hier.
Lors de la tuerie de Christchurch, dans une mosquée en Nouvelle-Zélande, dans les 24 heures qui ont suivi, Facebook a retiré 1 500 000 fois la copie de la vidéo. Jamais la justice ne passera en 24 heures 1 500 000 fois avec tous les référés du monde. Quelque part, il faut bien s'adapter au monde tel qu'il est et à ses réseaux sociaux tels qu'ils sont. Donc.
Pour le gouvernement, seuls les réseaux sociaux peuvent agir efficacement, encadrés par le CSA, dont le rôle serait renforcé dans cette loi. Mais au final, le Sénat n'a pas suivi le gouvernement. Avec l'Assemblée nationale, ils nommeront donc une commission mixte paritaire pour arriver à un texte commun. Ce sera en janvier.
Merci. Maxime Tellier. Le montant du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique sera revu à la baisse en 2021 et 2022. Il est actuellement fixé à 6 000 euros et ce sera moins d'ici un an. Voilà ce que dit le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il dit prendre en compte la baisse des prix des véhicules électriques en ce moment. L'automobile encore, et cette annonce il y a quelques minutes à peine avant l'ouverture de la Bourse de Paris. PSA et Fiat Chrysler officialisent un protocole d'accord pour fusionner. Cela ouvre la voie à la création l'avenir d'un géant européen de l'automobile dans un secteur en pleine mutation. Le groupe, le nouveau groupe de plus de 400 000 salariés, deviendrait alors le numéro 4 mondial avec près de 9 millions de véhicules vendus chaque année.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le vote s'annonce historique ce mercredi. La Chambre des représentants aux États-Unis votera sur la mise en accusation de Donald Trump.
Il est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Il s'agit toujours des suites de l'affaire ukrainienne. Lorsqu'en juillet dernier, le président américain avait appelé son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour obtenir des informations compromettantes sur son rival démocrate, Joe Biden. La Chambre des représentants démocrate veut donc le destituer en bloc, Gregory Phillips.
Sur les 231 représentants démocrates, tous, sauf peut-être deux ou trois, devraient voter la mise en accusation de Donald Trump. Le camp républicain, lui, minoritaire à la Chambre, devrait dans son ensemble voter contre la procédure. Mais tout à l'heure, Donald Trump deviendra le troisième président de l'histoire des États-Unis à être ainsi placé sous le coup d'une procédure d'impeachment après Andrew Johnson au 19e siècle et Bill Clinton en 1998. Richard Nixon avait démissionné avant le vote de la Chambre. Ensuite, les représentants devraient donc demander aux sénateurs d'ouvrir un procès en destitution. Il pourrait avoir lieu dès janvier et pourrait être expéditif ou alors au contraire durer plusieurs semaines, ce qui viendrait parasiter la primaire démocrate en vue de la présidentielle de novembre 2020. Pour que Donald Trump soit destitué, il faudrait qu'une vingtaine de sénateurs républicains se retournent contre lui. Improbable, voire impossible, il y a de très fortes probabilités que, comme Johnson et comme Clinton avant lui, Trump soit blanchi lors de ce procès.
Car effectivement, Donald Trump peut compter sur son camp républicain à 11 mois de la présidentielle américaine. À ce propos, Grégory Phillips a joint Célia Belin, chercheuse invitée au Brookings Institute à Washington.
Trump est un phénomène un peu particulier parmi les présidents américains, c'est-à-dire que sa cote de popularité est pratiquement totalement indépendante de l'actualité. Et on le voit particulièrement avec l'impeachment. Ce qui est spectaculaire, c'est que ça n'a eu aucun effet sur sa base électorale, qui va continuer à soutenir Donald Trump. Et à la limite, l'impeachment l'aide, parce que ça va lui permettre d'expliquer qu'il a toujours été, depuis le départ, victime d'une chasse aux sorcières de la part des démocrates. Et donc, ça va juste renforcer le sentiment que le président est assiégé et donc que ses supporters doivent se rallier derrière lui. Évidemment, par ailleurs, un président qui a été impeached par la Chambre des représentants, ça n'est pas anodin, ça n'est arrivé que trois fois dans l'histoire. Et donc, au regard de l'histoire, il sera fragilisé comme président puisqu'il aura été reconnu coupable, ne serait-ce que politiquement, d'avoir commis un méfait qui justifie son impeachment.
Le vote de la Chambre des représentants est prévu en fin de journée ce mercredi. Le maire a dû se rendre à l'évidence, surendetté et en proie à une grève des services de santé depuis une semaine à cause des salaires impayés. La mairie de Rio de Janeiro au Brésil est entrée hier en cessation de paiement jusqu'à nouvel ordre. Celle qui reste la vitrine touristique du Brésil n'a plus d'argent pour payer salaires et fournisseurs. Jusque-là, le maire de Rio, un pasteur évangélique, avait refusé d'admettre la réalité, Anne Vinga.
Cela fait des mois que le maire de Rio, Marcelo Crivella, nie haut et fort la tragédie qui s'annonce. Selon monsieur le maire, la détérioration des services de santé, les salaires du personnel impayés depuis des mois, tout cela serait faux et inventé par les médias. La manœuvre a peu fonctionné tant Marcelo Crivella est aujourd'hui impopulaire à Rio et crédité d'à peine 8% d'opinion favorable. Mais depuis hier, la question est bien tranchée et malheureusement du mauvais côté. Les caisses de la ville sont bien vides et l'aide exceptionnelle de 33 millions d'euros que vient de lui concéder le président Bolsonaro ne changera pas grand-chose. Car selon le tribunal des comptes, la mairie aurait dû investir près de 500 millions d'euros dans le secteur de la santé depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir de Marcelo Crivella. Aujourd'hui, seuls les services d'urgence fonctionnent dans les hôpitaux de la ville. Mais ce sont désormais tous les secteurs qui sont touchés par ce défaut de paiement. La ville ne sait pas comment payer les salaires et le 13e mois de ses fonctionnaires, dont ses professeurs du primaire. Elle doit beaucoup d'argent à l'entreprise de nettoyage de la ville qui a décidé de faire pression avec le réveillon qui approche. Un événement traditionnel à Rio où près d'un million de touristes participent. Une nuit où son économie tourne à plein régime et a justement beaucoup besoin des services de secours et de nettoyage.
C'était Anne Vigna au Brésil pour France Culture. La météo à présent, alors qu'a eu lieu hier la journée la plus chaude jamais calculée en Australie. En France, le temps est à peu près de saison. Des averses sont attendues sur l'est de la France ce mercredi, sur la Bretagne également en fin de journée. Ailleurs, les nuages laisseront percer quelques éclaircies et il fait ce matin 8 degrés à Lille, 9 à Paris, 10 degrés à Rennes et Strasbourg, 13 à Bordeaux, 15 degrés à Lyon, 18 degrés déjà à Marseille ce matin.